Ce matin, nous allons continuer cette série de quatre messages sur la voix de Jésus dans nos vies. Et je me disais, dans ce premier temps que nous avons eu, que nous avons partagé, comment est-ce que nous avons entendu la voix de Jésus ce matin ? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas une réponse à vous donner, puisque c'est une réponse personnelle. Pour ma part, je trouve que c'est toujours important de se poser la question, quand on est dans sa présence, qu'est-ce qu'on écoute de lui ? Qu'est-ce qu'on entend de lui ? Comment il nous interpelle ? Parce que Jésus continue de nous parler, même si nous sommes au 21e siècle, il continue de nous parler, à la fois par sa parole, quand on la lit, par les temps de communion fraternelle, de chant que nous avons, par son esprit, et beaucoup par son esprit. Et c'est Jésus qui dit, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc l'esprit ne remplace pas Jésus. L'esprit nous permet de suivre la voie de Jésus. L'Esprit nous permet de suivre la voix du Père, puisque Jésus écoute la voix du Père. Ainsi, avec l'Esprit, nous sommes en relation avec la Trinité de manière complète, parfaite. Le témoignage de l'Esprit nous assure que nous sommes aimés. C'est ce qu'on a vu dans un premier message. Il nous convainc de péché. C'était le deuxième thème. Et troisième thème, il nous renouvelle notre pensée. À partir de Romains 12, 2, hein, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est seulement l'esprit qui peut réellement renouveler notre pensée, notre intelligence, notre façon de fonctionner au niveau du cerveau. Dans le but, Romains 12, 2, donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne pourrons discerner ce que Jésus veut dans nos vies que si nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Ça commence par ça. J'étais parti pour cette série de messages sur un passage de Luc 18-19 où Jésus va rencontrer, avant d'entrer dans Jérusalem, trois personnes. Les trois dernières personnes qu'il rencontre avant d'entrer dans Jérusalem, je vous fais un bref rappel. Il commence par ce jeune homme riche qui est dans Luc, qui est appelé un chef, qui fait tout bien. Il est quasiment parfait. Et Jésus va lui dire, à la question qu'il a, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus va lui répondre, « Il te manque encore une chose. » Juste une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Et ce jeune homme riche s'en alla tout triste, nous dit le texte, parce qu'il n'avait pas envie de vendre tout ce qu'il avait pour le donner aux pauvres. Puis ensuite, après ça, Jésus va rentrer à Jéricho. Et voilà un aveugle près du chemin qui est là, qui crie, « Aie pitié de moi, fils de David !» Et Jésus va s'arrêter et va lui dire, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Puis Jésus rencontre une troisième personne, comme il rentre dans Jéricho et traverse la ville. Il y avait un homme riche, collecteur d'impôts, petit homme qui, pour voir Jésus, monte sur un sycomore. Et lorsque Jésus le voit, il lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Et Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Tout le monde dit, « Mais qu'est-ce qu'il va faire chez ce pécheur ?» Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je termine par cette série de messages par cette dernière partie qui concerne les conseils et les directives lorsque des choix sont nécessaires. Comment est-ce que nous entendons l'Esprit de Jésus quand nous devons faire des choix? Quand nous sommes à la croisée de chemin et qu'il y a plusieurs choix possibles et on ne sait pas comment avancer. Et parfois, toutes les options sont plus ou moins valables, il faut bien le reconnaître. Et c'est difficile de faire un choix clair. Dans Philippiens 1, Paul dit « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. » Vous savez, l'Esprit de Jésus est libre. C'est la première chose que j'aimerais vous dire. L'Esprit parle à travers les événements, à travers les gens, comme il veut. Et dans le texte que nous avons, que je vous ai évoqué, c'est un mendiant aveugle, avant d'entrer dans Jéricho. Il va lui-même être la voix de Jésus en appelant fils de David. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça. Cet homme qui criait pitié de moi, fils de David, c'est la voix de Jésus qui parle à Jésus lui-même. C'est l'Esprit qui parle à Jésus. Dieu parle partout dans le monde. Il peut nous parler au travers d'un enfant. Il peut nous parler au travers d'un bouddhiste, d'un musulman. Dieu fait comme il veut. Quand on dit Dieu est puissant, ça c'est la puissance de Dieu. Il ne se limite pas au culte du dimanche matin, il ne se limite pas à notre culte personnel. Et souvent nous limitons la voix de Jésus parce que le cadre qu'il choisit, c'est quand même pas un cadre correct. Il y a 25 ans, plus de 25 ans maintenant, un vice-ministre de la Santé au Laos, bouddhiste et communiste, nous a donné de manière prophétique les deux éléments clés pour savoir comment rester dans le pays. Il nous a dit, vous créez une nouvelle organisation avec un nouveau nom et vous allez dans tel endroit, dans la province d'Atopeu, parce que personne ne veut y aller, et vous verrez, ça sera possible. Et je crois vraiment qu'il a prophétisé à ce moment-là. Il a parlé au nom de Dieu, à nous, en nous donnant les clés qu'il nous fallait pour faire les choix. On a suivi ces clés. Et c'est comme ça que le travail au Laos a pu vraiment commencer. Nous avons besoin de nous montrer ouverts aux surprises de Dieu, au hasard, aux rencontres étonnantes. Comment est-ce que nous discernons la présence de Dieu là où nous sommes? Souvent, nous attendons des choses extraordinaires. Et comme je vous disais en tout début, dans le moment que nous avons vécu là, dans ce temps de culte et de louange, de démarrage, je suis certain que le Saint-Esprit parlait. Et moi-même, il m'a dit certaines choses. Et apprendre à se mettre à l'écoute de l'Esprit dans nos prières, mais aussi dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, être là et dire « qu'est-ce que tu dis ?» Éphésiens 6, 18, « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. » Vous savez, l'Esprit de Jésus est libre. Il fait comme il veut, quand il veut, et il ne demande pas les mêmes choses. Il parle toujours de façon personnalisée. Jésus parle à deux riches dans ce texte. J'élimine le pauvre. Le jeune homme riche, qui a acquis sa fortune probablement de manière très honorable. Jésus lui demande de tout vendre et de tout donner aux pauvres. Et là, on pourrait faire un enseignement en disant que quand on est chrétien, on vend tout et on donne tout aux pauvres. Mais le problème, c'est que dans le même texte, Zachée, qui a acquis sa fortune de manière illégale, collecteur d'impôts véreux, dans le même texte, il obtient la vie éternelle sans que Jésus ne lui demande rien. C'est lui-même qui spontanément va donner la moitié de sa fortune. Il ne donne pas tout, que la moitié. et il rembourse au quadruple ceux qu'il a volés. C'est dans le même texte. Deux hommes riches, une demande qui semble injuste pour le premier. Il en demande beaucoup trop. Dans des situations similaires, Dieu ne nous parle pas de la même manière. Dieu ne nous demande pas les mêmes choses. Et souvent, nous pensons que s'il m'a demandé ça dans tel cas, il doit demander la même chose à tous les autres. Ce qui s'applique à l'un ne va pas forcément s'appliquer à l'autre. Attention, attention à nos capacités incroyables de comparaison. Nos volontés souvent inflexibles de faire que l'autre soit traité de la même manière que moi. Quand Jésus va annoncer à Pierre sa fin et comment il sera mené là où il ne veut pas être mené, Pierre va dire, en voyant Jean arriver, il va lui dire, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » C'est-à-dire, toi, suis-moi avec l'appel que tu as reçu, avec l'appel personnel, personnalisé que je te donne. Et notre responsabilité, c'est de porter l'appel personnel que Jésus nous donne, sans nous occuper de l'appel des autres. Parce qu'à chacun, Dieu adresse un appel personnel. Donc l'Esprit de Jésus est libre. Avant de vouloir discerner quelque chose, rappelons-nous ça, comme un fondement. Il parle à qui il veut, il demande ce qu'il veut. La deuxième chose, c'est que Jésus parle au cœur et à la raison, aux deux en même temps. Et l'Esprit va parler à la raison. Alors on dit souvent que la spontanéité, c'est plus en lien avec l'Esprit, qu'il est parfois de se fier à ce qu'on a dans le cœur, ce qui vient de manière spontanée. Mais je crois que pour les décisions importantes de notre vie, c'est important de prendre le temps de ne pas décider sur une impulsion et de réfléchir avec sa raison. Bien cerner les enjeux. Et je dirais simplifier la question qui nous est posée. Parfois, il faut décomposer la question. Quand on n'est pas capable d'y répondre, quand elle est trop complexe, il faut la décomplexifier et commencer par le début. J'ai un proverbe africain que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé dans ma vie. C'est que si on veut manger un éléphant et qu'on ne sait pas comment faire, il faut commencer par le premier bout. Alors ça paraît tout bête. Mais si on commence pas par le début, on n'arrivera jamais à la fin. Et si on commence pas par le premier bout, on peut pas finir l'éléphant. Jésus va aider le jeune homme riche à simplifier la question. Le jeune homme riche a une question très compliquée. Comment hériter de la vie éternelle? Et ça fait probablement des années qu'il réfléchit à cette question. Jésus va l'amener à réfléchir sur ce qui l'empêche, sur ce qui empêche la vie éternelle pour lui. Il va décomposer et simplifier la question. Il va lui dire, vends tes biens. Première chose. La deuxième chose, suis-moi. Puis là, peut-être qu'on aura approché la réponse de la question. À Zachée, Jésus va décomposer aussi et part de là où il est. Il va lui dire, commence par descendre de ton arbre. Je viens manger chez toi, accueille-moi chez toi, dans ta vie. Ensuite, tu pourras discerner la suite. Et il va discerner, puisqu'il va donner la moitié de ses biens, il va répondre à ceux qu'il a volés. Souvent, on entend cette question, comment je pourrais servir Dieu? Ça, je l'ai entendu, mais des dizaines de fois. Et j'ai envie de dire, avant cette grande question qui concerne toute ta vie, réfléchis là où tu es, dans ce que tu fais, quel est le prochain pas que tu dois faire? Comment Dieu t'appelle à faire un pas de plus? Et où est-ce qu'il t'appelle? Et tu verras, c'est presque simple. Le prochain pas, c'est ça. Un jour, tu te retourneras, tu verras toute ta vie, tu verras ce que Dieu a permis que tu fasses. Mais toi, tu sais pas. En grandissant en maturité, nous devrions apprendre, je pense, à mieux discerner, en prenant les étapes les unes après les autres, on devrait pouvoir ainsi gagner en maturité. Dans Hébreux 5, 14, il est dit « La nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On n'est pas capable d'avoir le même niveau de discernement au même moment dans notre vie. Il faut souvent grandir en maturité pour apprendre à discerner. Donc l'esprit parle à la raison, mais l'esprit parle aussi au cœur. Et nous devons apprendre à discerner les mouvements de notre cœur, les émotions qui sont là. Et parfois, dans un temps où de lecture de la parole, l'esprit va spécialement parler à notre cœur, bien plus qu'à notre raison. Quelque chose d'émotionnel qui va se passer. Et on va être là et pouvoir avancer avec ça. Mais avant, je crois qu'il est tellement important de connaître notre état d'esprit avant de faire des choix. Nous avons deux types d'émotions. Deux types. Des positives et des négatives. Les négatives, c'est la peur, la colère, l'inquiétude, le découragement, la honte, la tristesse, la dépression et tout ce que vous pouvez rajouter là derrière. Ce sont des émotions négatives. Jésus se retrouve face à l'aveugle de Jéricho, face à un état d'esprit négatif. Ce gars a depuis longtemps arrêté d'espérer. Ce gars est incapable de raisonner. Jésus va pas lui simplifier les questions, va pas lui donner des ordres un petit peu comme au jeune homme riche ou à Zachée. Jésus va lui demander de faire quelque chose, simplement d'agir dans sa vie. Il va parler à son cœur, à ses émotions, car il sait que tant qu'il va rester comme ça, il pourra pas discerner quelque chose. Jésus va lui répondre, va lui proposer de répondre à ses besoins. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est la phrase classique de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce gars va lui répondre, Seigneur, ce que je retrouve la vue, parce que c'est tout le reste est écrasé par ça. Il est incapable de discerner, de prendre une décision, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe là-dessus. Et le conseil, moi, que j'ai toujours donné, c'est ne pas prendre des décisions quand vos émotions sont négatives, mais de traiter vos émotions et de prendre les décisions plus tard. Quand on est en mission, on recommande aux gens de ne pas prendre une décision pour la poursuite de leur activité missionnaire avant un an et demi. Parce que régulièrement, nous avons constaté que au bout d'une année, les émotions sont souvent négatives et que les prises de décision sont mauvaises. Et beaucoup de gens l'ont regretté. Donc on leur dit, attendez une année et demie, et au bout d'une année et demie, vous prenez la décision, quelle qu'elle soit. Et vous verrez vos émotions en charger, parce qu'il faut un certain temps pour se faire à tout ce qui se passe et voilà, à tous les chocs émotionnels qu'on peut vivre quand on est en mission. Et ce gars, il va retrouver immédiatement la vue. Et je crois que c'est pas qu'une vue physique. Il va retrouver une vision claire de sa situation. Et ensuite, il est capable de suivre Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Il y a quelques semaines, nous avions une soirée d'écoute de Dieu, de louange. Et dans un temps d'écoute, nous avons eu plusieurs personnes qui avaient reçu quelque chose comme une vision très floue, disant « j'arrive pas à distinguer ce qui se passe ». Personnellement, je trouvais ça assez bizarre comme sujet, comme réponse à cette écoute de Dieu. Et beaucoup de choses allaient dans ce sens-là, et jusqu'à un texte de l'Ancien Testament avec Gédéon, où Dieu lui demande d'aller se battre, mais qui doit laisser le maximum d'hommes, et finalement il part se battre juste avec 300 hommes alors qu'il affrontait une grande armée. Et la personne qui avait reçu ce texte avait dit, c'est, on doit tout laisser ce qui nous semble être notre force et nos capacités. Et c'est comme ça que Dieu éclaire la situation. Et à ce moment-là, on avait une jeune femme qui était en, hein, qui en, qui va se faire baptiser, et qui pour son témoignage de baptême devait donner des détails sur comment elle a, c'était compliqué avec son père, avec beaucoup de violence orale de la part de son père. Et elle disait, je me sens appelée à le dire, mais je ne me sens pas capable de le dire parce que lui-même sera là. Et je voudrais au moins lui en parler. Et on ne savait pas trop comment lui la conseiller. Et elle a reçu à ce moment-là une vraie délivrance dans cette soirée. Parce que ses paroles la concernaient. Elle a une vision très claire de la situation. Elle dit, demain je vais voir mon père. Et je lui parle de ça. Elle est arrivée le lendemain chez son père. Et son père ne l'a pas laissé parler. Il lui a dit, il faut que je te dise une chose. Je sais ce que tu as vécu petite. Je vais te raconter ce que moi j'ai vécu petit. Tu comprendras pourquoi. Et il lui a demandé pardon pour ça alors qu'il n'est pas chrétien. Juste pour dire, quand Dieu prépare, quand Dieu nous guide, il a besoin de faire du clair dans nos émotions, négatives, confuses, qui nous obscurcissent la vue. Il a besoin de soigner nos émotions pour qu'on puisse avoir une vision claire. Et ce qui était pour elle un fardeau immense, une incapacité totale à avancer vers son baptême, s'est évanoui de cette manière-là. Et Philippiens 4:7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Comment discerner concrètement? Parfois, nous pensons qu'une fois qu'on a la paix dans notre cœur, ou la joie, émotions positives, ben ça veut dire que nous avons le bon discernement. Ça veut dire que nous marchons par la foi, que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Alors je crois vraiment que ce n'est pas si simple que ça. Tout simplement parce qu'on a des gens qui, par nature, peuvent être très positifs et se sentir en paix très rapidement, alors que ça ne vient pas forcément du Seigneur, et d'autres qui sont plutôt bileux et qui ne vont simplement pas être en paix facilement. Il y a plein d'autres raisons. Je crois que la paix, elle peut venir même chez un non-chrétien. Donc, faisons attention à ne pas nous contenter de ça, mais à mettre à l'épreuve la paix que nous ressentons. On peut se poser pour ça trois questions. Premièrement, est-ce que cette décision est en accord avec la Bible? En parlant des richesses, Jésus dira « Nul ne peut servir de maître ». Le jeune homme riche n'a pas voulu suivre cette parole. Jésus lui disait la même chose. « Vends tout ce que tu as. Nul ne peut servir de maître », en gros, il lui disait. Le témoignage intérieur de l'esprit, le témoignage qu'il va nous donner, la conviction qu'il peut mettre dans notre cœur n'est jamais contraire au témoignage de l'Écriture. Et je crois qu'on va être très difficile de comprendre le témoignage personnel de l'esprit si nous ne sommes pas imprégnés des Écritures, parce qu'on aura du mal d'aller vérifier. On doit être mature dans notre lecture. Comme je vous disais tout à l'heure, si on lit le jeune homme riche, on peut dire que nous devons donner tout notre argent aux pauvres. Si on lit Zachée, on peut dire que nous ne donnons que la moitié. Si on lit l'Ancien Testament, on ne donne que la dîme, 10%. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que on ne doit pas être des enfants, mais on doit prendre vraiment l'esprit complet du texte dans sa globalité. La parole de Dieu n'est pas un livre de recettes. Elle borne notre chemin. Elle nous dit que nous devons donner parfois tout, parfois une partie. Dieu ne demandera pas la même chose, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il y en a qui sont appelés à donner beaucoup. Il y en a qui donneront beaucoup moins parce qu'ils doivent prendre soin de leur famille. Je crois que c'est pareil, c'est un appel personnel. Et nous devons faire attention à nos lectures juste faciles. La parole de Dieu là-dessus, elle nous dit donne de bon cœur. La deuxième chose pour mettre à l'épreuve ce que nous ressentons par rapport à une décision, c'est quelles sont mes motivations profondes. Est-ce que j'ai le désir de profiter de la vie? Le jeune homme ne veut pas donner tout ce qu'il a aux pauvres, il pense qu'il a plus besoin de ses richesses que de Jésus. C'est ça son problème. Plus besoin de ses richesses, elles lui seront plus nécessaires que suivre Jésus. Avec Dieu, je crois que nous devons placer nos ressources à son service et pas à notre service. Nous devons placer tout ce qu'il nous a donné à son service et pas juste aux nôtres. Quand je dis richesse, je pense à tout notre bien-être, à tout ce que nous avons, à tout ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce qu'on préfère finalement ? Est-ce qu'on préfère ce que le monde donne ou ce que Dieu nous offre ? Je crois que c'est vraiment un test sur l'intégrité de notre cœur, cette question. C'est un examen pour voir à qui nous appartenons, qui est notre véritable sécurité. Le jeune homme riche, c'est quelqu'un qui se croit du dedans, de la communauté, et qui va devenir quelqu'un du dehors. Zachée, oui, ce qu'il va donner, ce n'est pas du tout requis par la loi. Parce que si c'était requis par la loi, il aurait rendu le double. Mais ça vient simplement de son cœur. Simplement de son cœur. Zachée, c'est quelqu'un du dehors qui va devenir quelqu'un du dedans. Comme l'aveugle, d'ailleurs. Zachée va, avec son cœur, donner avec plaisir. Parce que son plaisir, c'est plus de jouir de l'argent. Seul chez lui, mais de jouir de la présence de Jésus dans sa vie, dans sa maison. Donc, quel désir ? Est-ce que dans mes motivations, il y a un désir de profiter de quelque chose ? La deuxième question sur les motivations, est-ce que j'ai un besoin d'honneur, de notoriété ? L'aveugle, lui, il a perdu tout honneur. Il peut demander la pitié de Jésus, il a zéro honneur. Zachée, il se montre vulnérable en descendant de son arbre pour obéir à Jésus et l'accueillir dans sa maison. Son besoin de Jésus est plus fort que sa notoriété. Et Zachée et l'aveugle ne comptent plus vraiment sur le regard des autres depuis longtemps. Le jeune homme riche, il a dit que c'est un jeune chef. Alors lui a plus de problèmes avec ça. Il est plus concerné par maintenir sa position ou même grimper dans cette position que par connaître réellement l'amour et la grâce de Dieu. Et sa position de responsable le rend très sensible au regard de l'autre. Pour ce jeune homme, il contrôle sa vie, ses richesses, sa position sociale. Ouvrir son cœur, devenir vulnérable devient vite compliqué. Un des risques, je crois, des responsables, de celui qui a une position dans la société, c'est la peur que les autres peuvent penser de lui. Et la peur de perdre leur honneur. Une troisième motivation, c'est un besoin de pouvoir et d'influence. Zachée, il avait du pouvoir comme collecteur d'impôts. Vraiment du pouvoir. Parce que c'était un pouvoir arbitraire, mais il pouvait soit voler en prenant plus que nécessaire, soit alors avoir une faveur des gens en les taxant un peu moins. C'était deux façons de voler. Et comme il grimpe sur un arbre pour mieux voir, il avait cette tendance à dominer les autres et abuser de son pouvoir sur les autres. Le jeune homme riche, lui, avait un pouvoir spirituel. Probablement chef d'une synagogue. Et il était là avec ce besoin de pouvoir. En devenant honnête, Zachée va perdre son pouvoir sur les gens. S'il est honnête, il n'a plus de pouvoir sur les gens. Il applique juste la loi. Et peut-être qu'en vendant tout, le jeune homme riche serait devenu un jeune homme pauvre, un peu moins intéressant. Est-ce que nos décisions sont influencées par la peur de perdre du pouvoir ou par la peur que d'autres prennent le pouvoir ? On peut voir ça au travail, on peut voir ça dans l'Église, à plein de niveaux. Le pouvoir est quelque chose qui nous corrompt énormément et on est tous sensibles à ça. Et je crois qu'on doit vraiment faire attention à ça parce que ça peut être une des motivations qui nous fait prendre des choix. Et beaucoup de décisions sont prises juste par peur de perdre quelque chose. Puis la dernière chose pour discerner, c'est qu'en pensent les autres. Proverbe 12:15 nous dit « La voie qu'emprunte le fou est droite à ses yeux, mais les est sage d'écouter les conseils. » Le risque, c'est de demander à ceux qui pensent que comme nous. Je vous conseillerais de demander à des personnes qui vous connaissent bien, et ou surtout des personnes en qui vous reconnaissez une autorité spirituelle. Nous sommes des individus, ok, nous pouvons faire nos choix libres, ok, mais nous appartenons à une communauté, qui est l'Église. La communauté peut se tromper, évidemment, mais la communauté est une belle aide au discernement. Nos motivations ne sont jamais totalement pures. Celui qui me dira que ses motivations sont toujours pures, je ne le crois pas. Nous avons un besoin énorme d'humilité dans nos prises de décision. Et une des clés de l'humilité, c'est d'accorder à l'autre un droit de regard sur notre vie et sur nos décisions. Et Zachée est très intéressant pour ça, parce qu'il va dire, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire publiquement, il donne la possibilité aux autres de venir lui dire le tort qu'il leur a fait subir. Il s'expose énormément. Tu ne sais pas combien de gens vont venir. Peut-être des dizaines. Tu dis, tu m'as fait tort là, là, là et là. Ça va être dur à accepter. Nous ne pouvons vraiment discerner que si nous laissons l'autre discerner avec nous et ne pas être d'accord avec nous. Je crois que le grand risque, c'est de croire qu'on a compris la volonté de Dieu et que ceux qui ne pensent pas comme nous ne l'ont pas compris. Vous savez, nous devons apprendre à discerner, pas simplement lorsqu'un choix s'impose à nous, mais être des hommes et des femmes de discernement dans notre quotidien et pour les autres dans la communauté. Mais pour être pour les autres dans la communauté, nous devons déjà accepter que le discernement des autres s'applique à notre vie. Nous devons pour cela avoir un cœur à cœur avec Dieu, écouter Dieu sans le mettre dans une boîte. Laissez Dieu guérir nos émotions négatives et quand notre cœur est en paix, examinez nos décisions pour connaître nos réelles motivations et se laisser interpeller par les frères et sœurs. Je terminerai avec cette histoire que j'ai vécue dans un congrès de jeunes, congrès Revive qui concerne les jeunes des GBU. J'étais il y a un peu moins de 2 ans pour le nouvel an. Et j'étais en questionnement sur la poursuite de certaines choses dans ma vie. Et j'avais essayé de voir dans le texte biblique, de voir avec d'autres personnes ce qu'ils en pensaient. Et j'avais juste quelque chose de pas clair dans ma tête. Et c'est quelque chose qui traînait depuis un moment et je ne savais pas quelle bifurcation prendre. Et lors de ce congrès, c'était le soir du Nouvel An, nous avons eu un temps de louange, on va dire réjouissante, après minuit, et tonique. Et tout d'un coup, le groupe de louange a pris le chant Agnus Dei, écrit par Smith, pour ceux qui connaissent. Et pendant ce chant, on a commencé de reprendre deux phrases qui en elles-mêmes ne voulaient pas dire voilà plus que ça pour moi. Ils ont commencé de chanter et la salle a pris le lead, on va dire que le groupe s'est arrêté de chanter, la salle a pris le lead et a chanté sans arrêt en reprenant ces deux phrases. Et ça a duré 15 à 20 minutes. Ça aurait pu paraître très long. À peu près la moitié de la salle était à genoux. Et il y avait quand même 3000 personnes. Et là, le Seigneur m'a parlé de façon très, très précise, alors qu'il n'avait pas été clair jusque-là, et que j'étais dans ce processus de réflexion depuis plusieurs mois, si ce n'est années. Et j'étais juste impressionné comment l'Esprit est venu à ce moment-là et m'a donné l'orientation qu'il me fallait, mais d'une façon tellement claire. Tout ce qui était obscurci jusque-là devenait clair. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que ça ne s'explique pas. C'était juste comme ça et rien, et pas autrement. Alors, je ne dis pas que c'est des choses qui se passent toujours comme ça. C'est juste parce que j'ai pu le vivre de façon très concrète et c'était en réponse à une attente depuis longtemps. Donc, prenons le temps d'écouter. Gardons les choses dans notre tête, que Jésus fait ce qu'il veut, qu'il parle au cœur à la raison, qu'il... Nous devons réfléchir à comment nous discernons et quelles sont nos motivations. Et il peut parler, soit par un frère, soit de façon très spécifique, soit par sa parole. Laissons-le libre. et soit éventuellement par un non-chrétien, pour nous donner une révélation très claire. Seigneur, merci. Merci parce que ton esprit n'a pas changé. Il est le même. On dit hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est tellement vrai. Merci parce qu'il est là pour nous conduire dans toute ta connaissance. Et nous remercions pour la connaissance qui nous donne du Fils, du Père. Merci pour l'Esprit qui habite en nous. Merci d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur et de l'entendre. Amen.